Radio Caravane. Tour de piste.
Dans ton poste, dans ton poste.
Radio Caravane.
Ce jeudi 31 mai 2018 a eu lieu la Fabrique du Changement à la Grainerie à Toulouse. Entre conférences inspirantes et ateliers innovants, Radio Caravane s'est faufilé dans les coulisses de cet événement et vous propose d'écouter ceux qui ont participé à fabriquer le changement.
Nous sommes avec Sandrine Roudot, vous êtes chercheuse et semeuse d'utopie. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Avant même de définir votre métier, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ?
Alors oui, moi au départ je travaillais dans la publicité et puis un jour je suis devenue maman, c'était en 2001. Et là j'ai commencé à lire des livres sur l'écologie, je me suis rendu compte que notre monde allait droit dans le mur. Donc les épuisements des ressources, le dérèglement climatique, je me rendais compte qu'en fait j'allais nuire à la planète. Avec mon mode de vie, nuire à la planète de mes enfants. Et ça a été une révélation. Je sortais dans la rue et j'avais envie d'arrêter les gens dans la rue pour leur dire « mais vous ne vous rendez pas compte ?» Et en fait, j'étais abasourdie parce que je me disais « mais en fait, tout ça, on le sait depuis longtemps. » Et en fait, tout le monde continue à vivre comme avant. Je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose et j'ai changé de métier. Et j'ai décidé de faire du développement durable, d'accompagner des entreprises pour qu'elles aient... un impact plus positif sur la planète. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Donc, vous vous définissez en tant que chercheuse et semeuse d'utopie. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais en termes de développement durable, tout ce qu'on nous racontait sur faire des petites solutions vertes, tout ce qui était transition énergétique, tout ça... En fait, je me suis retrouvée donc, un peu plus de 10 ans plus tard et j'ai regardé, et c'était encore pire qu'avant en fait. Les ressources, on en avait encore moins. Le dérèglement climatique, on nous disait que ça allait encore s'accélérer bien plus vite que ce qui était prévu. Et donc je me suis dit, mais ça marche pas en fait. Maintenant, on a carrément mis le pied sur l'accélérateur, on va encore plus vite dans le mur. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à créer un autre monde, à changer de modèle, pourquoi on n'innove pas, pourquoi on est toujours pourquoi il y a des freins comme ça quand j'essaye de proposer quelque chose, quand on est porteur d'un autre monde, on peut avoir des réactions assez violentes, assez négatives. Je me suis dit, je vais comprendre ça, et puis si je me rends compte que tout ça, en fait, c'est trop compliqué, parce que psychologiquement, on est incapable de changer, j'arrêterai, parce que j'étais trop déprimée. Et en fait, en faisant ces recherches, j'ai vu effectivement que c'était pas simple, qu'il y avait plein de freins, dont la peur, le sentiment d'impuissance, tout ça. Et puis, parallèlement à ça, j'ai vu qu'il y avait des sentiments qu'on pouvait initier, des comportements, des choses à proposer, qui permettaient vraiment de changer les choses. Et donc, j'ai proposé une approche qui était autre chose que le développement durable. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une utopie, ce que je proposais. Et suite à ça, j'ai réfléchi, j'ai écrit un autre livre. Et à ce moment-là, j'ai étudié les mouvements de l'histoire. J'ai voulu savoir comment on avait eu la sécurité sociale, comment on avait basculé d'un modèle, avant l'ère industrielle, comment on était passé cette nouvelle ère. Parce que là, c'est le sujet, il faut qu'on passe à une autre ère. Post-croissance. Et quand j'ai travaillé sur ces mouvements de l'histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait eu un nouveau progrès, au moment où c'était défendu, c'était considéré comme des utopies. Et ça vaut également pour les grandes innovations. L'avion, le premier gars qui a pensé à faire ça, il était considéré très probablement comme un utopiste, de même qu'Internet est une utopie, de même que la fin de l'esclavage l'était, de même que, en fait, tous nos droits, tout ce qui nous paraît évident, au moment où ça naît, c'est considéré comme des utopies et personne n'y croit, ou très peu, en fait. Et donc, je me suis dit, ça va être ça maintenant mon métier. Je vais chercher toutes les utopies qui existent aujourd'hui, qui pourraient changer le monde, et puis je vais les transmettre. Donc, je le transmets parce que j'écris, parce que je donne des conférences, parce que j'ai une maison d'édition que j'ai créée il y a 5 ans. Et je me suis dit, finalement, pour réunir tout ce que je fais d'un peu différent, je vais appeler ça chercheuse semeuse d'utopie.
Du coup, comment sont considérés ces utopistes ? Comment le monde les considère ?
Alors ça, c'est le problème. En fait, au début, d'ailleurs, on le voit bien, notamment pour les écolos, un coup, on est traité de bisounours, un coup, on est traité de djihadiste vert. Donc, en fait, on est à la fois on serait à la fois des gens irréalistes et en même temps des gens dangereux. Et en fait, ça montre bien que l'utopie, en fait, c'est, finalement, ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur, parce que c'est comme ça que change le monde. Mais les gens qui défendent une utopie, quand on défend une utopie, en fait, on conteste le présent. On conteste quelque chose. Les gens qui défendent, par exemple, une dignité radicale, comme l'ont fait les premiers abolitionnistes de l'esclavage, ou les gens qui, aujourd'hui, se mettent contre un projet qui est terrible écologiquement, sont des gens qui pointent le doigt sur le fait qu'il y a quelque chose d'intolérable, quelque chose qui est insupportable, et qu'eux ne le tolèrent pas. Et ceux qui regardent autour, eh bien, ce qui leur est renvoyé à la figure, c'est « vous, vous le tolérez ». Et ça, c'est très difficile, en fait, à supporter. Donc, quand on n'est pas dans cette logique de vouloir désobéir, de vouloir protéger quelque chose, on se dit « mais de quoi il se mêle ?» Et en fait, ça crée du désordre, et on n'aime pas le dérangement, on n'aime pas le désordre. Et surtout, voilà, ça vient aussi remettre en cause notre modèle. C'est-à-dire que les gens qui s'opposent, voilà, ils sont en train de dire le modèle dans lequel on vit, il n'est pas acceptable, il faut en construire un autre. Sauf que ce qui nous relie tous, ce qui fait notre ciment social, c'est le modèle dans lequel on est. Donc en fait, c'est très déstabilisant pour les autres.
D'où viennent justement ces graines d'utopie? Parce qu'elles viennent pas d'en haut.
Non, en fait, les utopies, elles viennent toujours de citoyens ordinaires, d'entrepreneurs, parfois de syndicats, parfois voilà, c'est des gens qui décident de se tenir debout un jour. Ça vient jamais des gouvernements à place. Si vous prenez la fin de l'esclavage, c'est pas venu des gouvernements. Si vous prenez la fin de la ségrégation, non plus. Tout, absolument tout. La sécurité sociale, c'était dans le programme du Conseil national de la résistance. Le droit de vote des femmes, c'est pareil. C'était suffragettes qui l'ont défendu dans la rue. En fait, la loi, le gouvernement finit par ratifier quelque chose. Mais l'émergence des utopies, c'est toujours des citoyens. Parce qu'en fait, encore une fois, ça vient bousculer un système. Et ce système, bah, c'est les gouvernements qui le protègent, en fait. Et très souvent, ces utopistes sont hors la loi. C'est pour ça que c'est compliqué.
Vous êtes aujourd'hui à la Fabrique du Changement à Toulouse. Vous avez proposé une conférence. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, en fait, j'ai expliqué qu'on parle beaucoup d'utopie en ce moment. Ça revient un peu à la mode. Et qu'en fait, cette utopie-là, donc on voit dans des unes de journaux avec une petite licorne, ou alors on voit des politiques qui utilisent ce mot. Et en fait, ça, c'est la version divertissement de l'utopie. C'est une arnaque, en fait. Le truc, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est un peu comme un concept car dans un mondial de loto. C'est un super bolide qu'on ne fabriquera jamais. Et en fait, c'est juste là pour montrer, regardez, on est visionnaire, regardez, on vous donne de la matière à rêver, alors qu'on est, c'est vrai, dans un monde qui est un petit peu grave, parce qu'on a des enjeux à régler. Mais en fait, la vraie utopie, c'est pas ça. La vraie utopie, elle n'est pas là pour rigoler, en fait. La vraie utopie, elle est là pour changer le monde. Et c'est toujours comme ça. Et c'est un peu ce que je disais, c'est que l'utopie, en fait, son problème, c'est son étymologie, c'est-à-dire qu'elle signifie « qui n'a pas de lieu ». Et nous, donc ça veut dire, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas en avoir un jour. Et donc c'est en fait l'irréalisé, et nous l'avons traduit par l'irréalisable. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, ce que je vous disais, hein, l'avion, c'était une utopie au départ, le vote des femmes avant d'être un droit, c'était une utopie. Et sauf qu'une fois réalisé, ça n'a plus le droit de s'appeler utopie. Donc, on pense que les utopies ne se réalisent pas, ce qui est une erreur. Et donc, j'ai expliqué ça et j'ai expliqué en quoi l'utopie permettait à la fois de se battre pour quelque chose. Ça crée du désir parce qu'on ne se bat pas pour des miettes de dignité. Par exemple, les abolitionnistes contre l'esclavage, ils se sont battus parce que c'était un autre monde énorme, c'était une dignité à défendre. Ils sont pas battus pour. On ne se bat pas pour des miettes, en fait, de dignité. On ne se bat pas pour, je dis ça à chaque fois, mais pour réduire les coups de fouet par quatre. Donc c'est vraiment cette idée de, bah, ça nous transcende en fait, parce que ça crée du désir, ça montre un autre monde. Et pour ce niveau-là de prétention, on peut aller plus loin que qui on est et on peut défendre quelque chose. Et l'autre, il y a un deuxième effet de l'utopie, c'est que c'est tellement radical. Donc par exemple, voilà, abolition de l'esclavage, c'est un truc qui est radical. Et bien du coup, ça amène à innover. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ère industrielle. L'ère industrielle est arrivée quand on a développé les machines à vapeur. Et les machines à vapeur, on les a développées parce qu'on ne pouvait plus se servir des esclaves pour faire les choses. Et donc, l'utopie, ça permet d'innover. Sinon, quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, notre petite transition énergétique et tout ça, en fait, ça ne nous fait pas innover. Ça nous fait faire du moins pire, mais ça ne nous oblige pas à inventer des solutions incroyables. Et la troisième chose, c'est que l'utopie, ça nous permet aussi de nous accomplir dans la vie. C'est-à-dire que ça nous permet de suivre nos valeurs, de défendre le monde qu'on veut voir pour nos enfants. Est-ce qu'on a envie de leur montrer qu'on se résigne ou est-ce qu'on a envie d'inventer un autre monde, quoi. Donc l'utopie, ça sert aussi à ça. Ça sert à être aligné avec qui on est. Et c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est ne nous excusons pas d'être des utopistes, quoi.
Donc vous le disiez, on voit que la société a du mal à aller de l'avant, à aller mieux. Du coup, quels sont les freins à ce changement, à ce renouveau ?
Le frein, il y en a beaucoup, mais le frein principal, c'est la peur. Hein. Et en plus, on nous annonce des changements apocalyptiques. On a l'impression que c'est de pire en pire. Les nouvelles sont pas bonnes, jamais. On voit le manque de courage des politiques. On voit la puissance des lobbies à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme par exemple le glyphosate qui n'est toujours pas passé. On a peur aussi d'échouer à changer ce monde. Et en fait, la peur, elle a cet effet terrible. En plus, il y a une louche de culpabilité sur le truc. C'est qu'on se dit, là, je suis en train de nuire à la planète de mes enfants. Donc, en fait, la peur et la culpabilité, c'est trop dur à se prendre en pleine figure. Donc, on a tendance à être dans le déni. En fait, la peur, elle nous amène... Elle active une zone de notre cerveau qui est très primaire, qui est le cerveau reptilien. Et quand on a peur, ce qui se passe, c'est que soit on attaque le messager. Donc, effectivement, on traite les écolos de djihadistes verts. On a envie de les faire taire, en fait. Le deuxième, c'est qu'on peut être dans le déni, dans la fuite, dans la diversion. Donc on va dire, est-ce que c'est la faute de l'homme, le dérèglement climatique ou pas ? En fait, on déplace le sujet pour pas trop en parler. Ou alors on dit, c'est la faute des Chinois, ils polluent. Et puis le troisième, c'est l'immobilisme. C'est-à-dire, pas bouger, ça va passer. Parce qu'en fait, la peur, elle tétanise. Et tant qu'on a peur, on n'est pas dans l'action. Donc on peut pas traverser ça. Donc, c'est des sentiments qu'il faut absolument combattre. Il y a ça, puis effectivement, il y a le sentiment d'impuissance, quoi. Et après, il y a des antidotes face à ça, mais c'est vrai que ce sont des freins qui sont extrêmement difficiles et qui sont entretenus par ceux qui ne veulent pas que ça change, évidemment. C'est pour ça que c'est très important. Moi, je fais très attention quand je partage des choses, par exemple, sur les réseaux sociaux. Évidemment, je partage je montre ce qui ne va pas. Donc, je vais dénoncer, effectivement, les députés qui ont voté pour le glyphosate. Mais en même temps, je fais attention aussi à montrer ce qui avance. Parce que sinon, je nourris un sentiment d'impuissance. Et là, il y a un moment donné où les gens se disent « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis une goutte d'eau. » Sauf que la goutte d'eau, c'est elle qui fait déborder le vase.
Justement, comment est-ce qu'on peut modifier nos comportements, les comportements de la société, pour commencer à imaginer, à se réveiller peut-être, et à faire des actions pour que ça change.
Alors moi, je pense qu'on a tous... je pense qu'on prend tous un bout du chemin. C'est-à-dire que y a plein de causes différentes. Et il faut écouter celles qui nous touchent émotionnellement, qui nous touchent dans notre corps. Il y a des gens qui ne supportent pas le sort des migrants. Voilà. Et un jour, ils se réveillent et ils se disent « voilà, je vais en héberger un ». Et en fait, il faut suivre ces intuitions-là. Il faut suivre nos émotions. Alors, la plupart des gens ont tendance à les masquer. Mais au contraire, en fait, quand on est triste ou quand on est en colère, ça nous renseigne sur quelque chose qui est important pour nous. Donc, il faut suivre la cause qui nous parle. Ça peut être l'écologie. Il y en a, c'est le bien-être animal. Et en fait, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Et il n'y a pas une façon de le faire. On a tous son style d'utopiste. Il y en a qui écrivent beaucoup, il y en a qui vont aller aider, il y en a qui vont faire des actions rigolotes, un peu impertinentes pour foutre le bazar. On se mêle de la chose publique, quoi. On se mêle un peu de ce qui nous regarde, en fait, parce que c'est le monde et parce que c'est notre monde et qu'on y vit et que ça a des conséquences. Donc voilà, il y a ça. Et il faut aussi, je pense, faire attention au milieu dans lequel on évolue. C'est-à-dire qu'on est forcément en minorité. En tout cas, ceux qui ont décidé d'assumer ce côté utopiste. Et donc, il faut veiller à ne pas être dans un écosystème qui nous étouffe. Donc, veiller à ne pas être avec des gens trop toxiques. Parce que ceux qui ne font rien n'ont pas intérêt à ce que vous ayez raison. parce que du coup, ça les renvoie à leur inaction, ce qui n'est pas du tout confortable pour eux, parce qu'ils se disent « Ah bah donc, ça veut dire que c'est possible, donc ça veut dire que je suis peut-être un peu lâche. » Donc personne n'a envie d'avoir ce sentiment-là. Donc vous êtes un problème pour les autres. Donc il faut avoir cette clairvoyance de se dire soit quand je suis avec ces gens-là, je parle pas de ce qui est important pour moi, soit je les vois un peu moins et puis j'en vois un peu d'autres. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on sort de... Moi, j'étais un peu en désespoir à un moment donné, et on sort de ce désespoir par deux choses, en allant dans l'action. Moi, par exemple, j'ai monté un atelier de réparation. Un jour, j'ai mis une photo de mon grille-pain sur Facebook et j'ai organisé un atelier pour réparer les objets. Et c'est la deuxième chose, c'est que je me suis mis en lien avec d'autres. Donc l'action est se mettre en lien avec ceux qui sont comme vous. Et là, on reprend confiance, en fait. Et puis, on commence à créer plein de conséquences. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah bah tiens, tu fais ça, mais tu pourrais faire ça sur tel sujet. Et puis, je vais te faire rencontrer machin. » Et puis surtout, on est tous sur la même longueur d'onde, on a tous la même énergie. Et on est en train, mine de rien, de réinventer un autre monde. Et on n'est pas avec les gens qui vous disent « Mais ça sert à rien, ce que tu fais. » On est avec des gens qui y croient et qui sont en train de faire des choses. Et puis, qui nous inspirent aussi par leur comportement. Il y en a qui sont hyper cool. Parce que parfois, on peut être trop engagé, un peu trop impliqué, et du coup, c'est dur à vivre. Et quand on voit quelqu'un qui rigole tout le temps et qui dit « Attends, on va faire ça, puis ça va marcher, puis si ça marche pas, c'est pas très grave », mais en fait, ça nous inspire, on se dit « Mais ouais, mais il a raison, et je vais un peu moins m'épuiser en faisant ça ». Où on voit quelqu'un, la manière dont il répond au conflit. Donc en fait, ça nous donne aussi des pistes, parce qu'on cherche tous comment arriver à vivre avec ça, parce qu'on sait qu'on est en minorité et qu'il faut quand même qu'on vive avec le monde, quoi. Donc c'est aussi très enrichissant de se mettre en lien.
Justement, c'est un peu le but de la journée d'aujourd'hui à la Fabrique du Changement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'intervenir et de partager vos connaissances, votre témoignage aujourd'hui ?
Déjà, je pense que les gens qui viennent ici sont déjà dans une démarche de changement, d'envie d'autre chose. Ils n'ont pas peur de regarder les choses en face. S'ils sont là, c'est parce qu'ils se disent ce que je fais dans mon métier, je peux l'améliorer, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs dont j'ai envie. Donc moi, ça, cette énergie-là, elle m'intéresse parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà dans le changement, donc qui sont prêts à traverser justement la peur, des choses comme ça, qui sont prêts à aller vers d'autres choses. Je trouve qu'il y a un mélange qui est intéressant, voilà, de gens qui sont à la fois profs, d'autres qui sont en entreprise, d'autres qui sont consultants, il y a tous les âges. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi de galvaniser les gens qui sont dans le changement et qui ne savent pas qu'ils sont des utopistes et qu'ils ont raison de l'être. Donc dès que je peux semer des graines en disant « mais si, allez-y, voilà, vous êtes dans le vrai » et essayer de donner aussi des petites astuces pour bien le vivre et pour aller plus loin, c'est toujours... c'est ma place, quoi, en fait.
Vous avez écrit deux livres par rapport à vos recherches. À ce que vous avez appris. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, le premier, c'est l'utopie mode d'emploi. Il parle, en fait, des freins, pourquoi on n'arrive pas à changer, pourquoi on ne s'autorise pas à imaginer autre chose et pourquoi on n'arrivait pas à convaincre, à sensibiliser. Il parle donc d'une proposition, d'une autre approche où on s'affranchit du développement durable et de la RSE telle qu'on la voit pour aller vers quelque chose d'à la fois radical et pragmatique, ce qu'est l'utopie. C'est-à-dire que l'utopie, c'est donner des objectifs radicaux, se dire voilà, le futur souhaitable, c'est ça, et je vais tout faire pour mettre en œuvre ça. Alors que la transition, c'est regarder d'où je pars et faire moins pire, ce qui est quand même pas terrible et ce qui est un peu douloureux. Et donc, dans ce livre-là, je propose plein de... J'ai appelé ça l'utopie mode d'emploi, donc un mode d'emploi pour mettre ça en œuvre, à la fois des outils de communication, de posture, de stratégie, etc. Donc, pour moi, c'était un livre qui était à l'usage des bâtisseurs d'un nouveau monde pour leur donner des clés pour réussir à faire passer et à imaginer et à innover pour un autre monde. Et le second, les suspendus, c'est quand je me suis rendu compte que l'histoire avait changé avec une petite minorité, j'ai voulu comprendre qui étaient ces gens-là pour voir s'il y avait des qualités particulières à être. Parce que moi, depuis que je suis petite, en fait, je me demande ce que j'aurais fait pendant la guerre. Alors j'ai étudié le sujet, je sais toujours pas ce que j'aurais fait, parce que je crois qu'on le sait jamais, mais je pense que se poser la question est très important. Je pense qu'on vit une époque qui nous tend les pires pièges, qu'on est en train de faire des choses qui sont vraiment... je crois qu'on va prendre cher, moi, dans les années à venir. Je pense qu'on fait des choses dont on sera pas très fiers dans quelques années. Et donc du coup, j'ai voulu étudier qui étaient ces gens-là, les héros de l'histoire aussi, pour voir que c'était des gens très ordinaires, très imparfaits. C'est pas des héros parfaits. et qu'on peut tous l'être. Et en fait, j'ai étudié aussi les études de soumission à l'autorité, toutes les expériences sont autour de la soumission à l'autorité, parce que la différence entre les gens qui arrivent à être clairvoyants dans une époque et à suivre leur humanité et à faire les bons choix, en fait, c'est des gens qui ont un rapport à l'obéissance différent. Donc j'ai étudié voilà, toutes ces expériences, qui sont à la fois des expériences scientifiques, comme celle de Milgram, où des êtres humains envoient une décharge électrique à un autre être humain, et où 65% envoient 450 volts. Et donc je me suis dit, ça veut dire qu'on est tous vulnérables. C'est pour ça que j'ai voulu comprendre pourquoi on était venu à faire ça. J'ai étudié aussi la période de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième partie de ce livre, donc Les Suspendus, c'est pour comprendre comment on peut être engagé et heureux. Comment on accomplit une vie finalement en accomplissant qui on est au fond et en prenant notre place dans le monde et en contribuant à la grande marche du monde. Donc je l'ai appelé Les Suspendus parce qu'en fait on est suspendu entre le tragique et le sublime, entre l'indignation et l'émerveillement, entre la radicalité et la bienveillance, parce qu'on est tous des gens imparfaits. Voilà. Et c'est un livre qui veut aider chacun à trouver sa place.
Le monde de demain, ce sera le monde de nos enfants.
Ouais.
Et est-ce que ça ne serait pas à eux de justement prendre les choses en main et de devenir ces utopistes ?
Je crois qu'ils y sont déjà pas mal. Moi, je crois que la jeune génération là, qui vient est câblée très différemment. D'abord, ils nous voient. Moi, je dis toujours, les enfants, ça ne vous écoute pas, mais ça vous regarde. Donc si on ne se résigne pas, déjà, ils apprennent qu'il voilà, ne faut pas se résigner dans la vie. Donc c'est super important ce qu'on fait déjà. C'est nous qui leur inculquons aussi ce qui est important. Et je voyais une jeune fille, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être elle pas 30 ans, peut-être 23 ans. Et elle était à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et elle expliquait qu'en fait, elle était désespérée depuis des années de tout ce qu'elle entendait sur l'écologie. Et elle disait ça, elle disait en fait, nous on n'a pas d'avenir, on sait qu'on a un avenir qui nous est promis, qui est juste terrible. Et moi je suis venue sur la ZAD parce que j'invente un autre monde. Et je pense qu'il y a, une conscience voilà, de la dureté dans lequel ils vont, du monde dans lequel ils vont être. Il faut absolument que nous, on leur donne envie de ne pas se résigner et d'inventer quelque chose. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse notre part aussi. C'est nous qui avons foutu un peu le bazar, enfin, surtout les générations précédentes. Et c'est notre responsabilité quoi, d'essayer de changer les choses. Mais c'est vrai que la génération qui va suivre, là, d'abord, elle n'est pas du tout dans les mêmes... Dans la même optique, on le voit dans les recrutements. Il y a des grandes boîtes qui ont un mal de chien à recruter des jeunes diplômés. Les jeunes diplômés veulent du sens, veulent être utiles à la société. Il y en a énormément. Donc ça change complètement. Alors qu'il y a 20 ans, on était vraiment sur une génération qui voulait rentrer dans les grands groupes, avoir des super salaires, avoir... Et là, on sent bien qu'on change complètement. Donc ça, c'est plutôt un bon signe.
Un dernier mot, est-ce que vous avez un site internet où on peut retrouver vos actualités ?
Oui, alors le site de l'édition, donc ça s'appelle lamersalée.com. Et après, il y a un site que je suis en train de refaire, qui est en cours, mais normalement dans un mois, c'est bon, qui s'appelle Alternité, Alternite.com. Parce que je publie souvent des articles pour des journaux, et donc je les mets en ligne régulièrement. Donc pour l'instant, on peut les retrouver sur la mer salée et bientôt, je vais mettre tout plein d'autres choses sur Alternité.
Et vous avez une page Facebook aussi ?
Ouais. Alors, il y a une page Les Suspendus, dans laquelle il y a suspendu -e-s à la fin, dans laquelle il y a justement plein de choses sur ce que j'ai étudié, et puis aussi sur ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, les mouvements citoyens qui se montent dans le monde. Ce qu'on voit aussi, par exemple, j'ai montré il n'y a pas très longtemps ce qu'on a assez peu vu en France, comme actualité, c'est qu'il y a des policiers en Belgique qui ont voulu désobéir aux ordres qu'on leur donnait de faire des rafles de migrants dans les squares. Donc ça, par exemple, voilà, j'essaye de trouver tous ces trucs-là quand je vois qu'il y a des gens qui se tiennent debout. Pour propager aussi, parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, cette info-là, par exemple, on l'a pas vu, personne en a parlé en France. Il y a peut-être un article dans les Inrocks, je crois. Et en même temps, on montre les violences des policiers à Calais. Et moi, je me dis, le monde sera ce qu'on montre. si on montrait ces policiers qui veulent désobéir, bah peut-être que ça inspirerait ceux à Calais. Et en fait, comme on montre tout le temps les trucs terribles qui sont de l'ordre de l'obéissance, mais on ne montre pas assez les désobéissants. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est parler de ça. Par exemple, j'ai écrit un article quand Greenpeace avait fait un feu d'artifice dans une centrale nucléaire pour montrer, voilà, tout le monde s'offusque, mais on devrait s'offusquer du manque de sécurité de nos centrales. Eux, ils ont fait leur boulot, justement, de lanceurs d'alerte, de vigilance, quoi. Donc j'essaye de nourrir un peu le livre, de continuer avec cette page-là.
Merci beaucoup, Sandrine Roudot.
Merci.
Radio Caravane. Tour de piste.
Dans ton poste.
Radio Caravane.